Bien, bonsoir à tous. Le ravelin ayant sonné, et je vois que tout le monde est là, donc nous allons pouvoir commencer avec tout d'abord la désignation d'une secrétaire de séance. Et donc je propose Christine Wilkelmann. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Alors, M. Laurent Arcusé a donné procuration à Marlène Thibault. Mme Sonia Collot a donné procuration à M. Raymond Carazzi. Mme Renée Sauvera a donné procuration à Michel Payalonga. Et Mme Émilie Lagier a donné procuration à Mme Christine Winkelmann. Je vous fais part aussi des remerciements que j'ai reçus depuis la dernière séance. Alors, la famille de M. Jean-Claude Paolucci nous remercie pour l'affection et la sympathie que nous lui avons apportée à l'occasion du décès de M. Jean-Claude Paolucci. Nous avons reçu aussi un très gentil mot de Mme Raphaël Gesselin, ancienne directrice générale des services, donc que je vous lis. Donc, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je tiens à chaleureusement vous remercier pour toutes les présentes attentions, témoignages de sympathie et d'encouragement à l'occasion de mon départ de Camaré. Je garderai en mémoire ces 6 années dans la collectivité, riches de projets, de rencontres et d'échanges auprès d'élus animés d'un profond sens de l'engagement et de l'intérêt général. Heureuse d'avoir donné satisfaction dans la direction des services et la conduite des politiques missions dans lesquelles je me suis beaucoup investi, je souhaite aux élus du conseil municipal un mandat serein et prospère et à la commune un avenir radieux. Bien sincèrement, Raphaël Gesselin. Remerciements également de Mme Élise Olivero, présidente de l'OGEC de l'école Saint-Andéol, qui nous remercie pour notre diligence suite aux intempéries de la semaine dernière, donc il s'agissait de fin septembre. Nous souhaitons aussi remercier les collaborateurs de la commune qui ont fait preuve d'une grande réactivité, disponibilité et efficacité à l'égard de l'école. Alors, nous en venons à l'adoption du procès-verbal de la dernière séance du 18 septembre 2014. Y a-t-il des remarques ?
Une remarque générale, on n'adoptera pas le procès-verbal, parce qu'encore une fois, on ne retrouve pas une partie de nos interventions. D'autres sont traduites différemment de ce qui a été dit, d'autres n'apparaissent pas. Alors, on ne va pas continuer de ça. On retrouve nos interventions.
Alors, vous allez justement les retrouver.
Et ensuite, voilà.
Voilà, vous allez les retrouver parce que suite effectivement à vos demandes systématiques.
Non, mais elles ne sont pas systématiques.
Hein. À chaque conseil, en tout cas.
Oui, à chaque conseil, bon.
Nous allons procéder.
Voilà. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas traduites. Alors, voilà, on a décidé de.
Nous allons procéder autrement. D'ailleurs, vous avez un micro. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons procéder à l'enregistrement de nos débats, de nos échanges. Cet enregistrement pourra être écouté sur le site de la commune. Et les élus du conseil municipal qui en feront la demande pourront se voir délivrer un CD de l'intégralité de nos échanges. Ce qui va nous dispenser d'essayer d'interpréter effectivement les propos de chacun. Et nous allons pouvoir, comme le règlement intérieur nous le permet, nous contenter d'un compte-rendu des votes, sachant que, de toute façon, l'intégralité de ce que nous aurons dit sera enregistrée et pourra être écoutée quelque temps après le conseil municipal sur le site internet de la commune ou par l'intermédiaire d'un CD-ROM. Comme ça, je pense qu'il n'y aura plus de contestation possible. Et puis, en même temps, chaque citoyen de Camaret pourra être informé de l'intégralité de ce que nous avons dit. Voilà. Néanmoins, puisqu'il a été dressé Je mets aux voix ce procès verbal. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Alors, je vous demande aussi de bien vouloir accepter l'ajout d'un dossier que nous avons intitulé dossier numéro 13, que je vais retrouver incessamment sous peu, qui concerne la crèche. Donc nous sommes un petit peu contraints de rajouter ce dossier. Nous avons été saisis par la directrice de la crèche du fait qu'il fallait quelque peu modifier le règlement intérieur de la crèche, la structure multi-accueil, pour développer, enfin pour mieux préciser le fait que nous allons pouvoir proposer des couches aux enfants, aux parents. Et en échange de quoi, la CAF va nous subventionner de manière plus importante. Donc nous y reviendrons, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Et là, je vous demande simplement si vous êtes d'accord pour rajouter ce dossier à l'ordre du jour, sachant que si nous ne l'adoptons pas avant la fin de l'année, nous allons perdre une somme importante en termes de subvention. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Donc nous passons à l'ordre du jour avec le dossier numéro 1, indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur, rapporteur Sylvette Gilles.
Monsieur le maire informe l'Assemblée de la nécessité de délibérer pour le versement au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur municipal de l'indemnité de conseil compte tenu du renouvellement du conseil municipal le 4 avril 2014. En effet, le receveur municipal peut fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment pour l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises, la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. L'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération et est acquise pour toute la durée du mandat du conseil municipal. Vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 97, vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités de conseil allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor chargé des fonctions de receveur de communes et établissements publics locaux, vu la délibération numéro 2013, délib 082 du 14 novembre 2013, octroyant l'intégralité de l'indemnité de conseil à M. Bruno Laurès en sa qualité de comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu l'avis de la commission des finances réunie le 20 octobre 2014, il est demandé au conseil municipal de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, définie à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an à M. Bruno Laurès en sa qualité de comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la commune de Camaret-sur-Aigle. L'indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. de lui accorder, le cas échéant, l'indemnité de confection des documents budgétaires. Les sommes correspondantes au versement de cette indemnité seront imputées sur l'article budgétaire 62-25 de la section de fonctionnement.
Voilà des questions. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, c'est voté régulièrement dans les conseils municipaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 2. Société Elior, avenant numéro 1 au marché d'assistance technique et prestation de repas pour le service de restauration collective. Par un marché notifié le 13 décembre 2013, la commune de Camaret-sur-Aigle a confié à la société Elior une mission d'assistante technique et de prestation de repas pour le service de la restauration collective. Un projet d'avenant a été établi afin d'autoriser le chef gérant à utiliser le véhicule de service mis à disposition par la municipalité de Camaret-sur-Aigle, ceci pour l'ensemble des opérations de livraison de repas sur les restaurants municipaux satellites. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les modalités de l'avenant numéro 1 au marché d'assistance technique et de prestation de repas pour le service de restauration collective, d'autoriser M. le maire à signer le dit avenant et tout document nécessaire, de dire que les autres dispositions du contrat initial, non contraires aux présentes, demeurent intégralement applicables. Voilà, vous avez donc l'avenant. Bon, c'est juste une modification sur un tout petit point de détail. Y a-t-il des questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 3. Copie de documents administratifs, fixation des tarifs, rapporteur Sylvette Gilles.
Monsieur le maire, rappelle au conseil municipal que l'article 35 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 dispose des conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. Celui-ci indique que le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d'un document administratif ne peut excéder le montant suivant. 18 centimes d'euros par page de format A4 en impression noir et blanc et 2,75 euros pour un CD-ROM. Il est demandé au conseil municipal de valider les tarifs suivants pour toute demande de copie de documents à l'exception des actes d'état civil. Format A4, recto, noir et blanc ou couleur, 10 centimes d'euros. Format A4, recto, verso, noir et blanc, couleur, 20 centimes d'euros. Format A3, recto, noir et blanc ou couleur, 20 centimes d'euros. Format A3, recto, verso, noir et blanc ou couleur, 40 centimes d'euros. Inscription sur CD-ROM, 2,75 euros. Consultation de dossier de consultation des entreprises, 35 euros. Le paiement de ces photocopies s'effectuera sur la régie de recettes reproduction de documents pour laquelle M. le maire nommera un régisseur titulaire et un suppléant par arrêté.
Y a-t-il des questions? En fait, donc, nous avons été amenés à prendre cette délibération qui n'existait pas jusqu'à présent, en particulier en prévision de la continuation de la procédure d'adoption du PLU, puisque un certain nombre de professionnels vont certainement demander beaucoup de documents à la commune, beaucoup de photocopies, et donc nous aurions du mal à les faire gratuitement. sans trop alourdir effectivement les finances de la commune. Donc vous avez bien noté qu'en revanche pour le Camaretois, le citoyen Camaretois, il n'aura pas à payer les photocopies qu'il fait ou qu'il demande dans le cadre des actes d'état civil. Alors je mets aux voix, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 4. Camaret fête le vin, samedi 22 novembre 2014, tarif du repas, rapporteur Elvire Théoki.
La commune de Camaret-sur-Aigle souhaite organiser une soirée dansante Camaret fête le vin le samedi 22 novembre prochain. Cette manifestation sera organisée en partenariat avec l'Association des jeunes agriculteurs de Vaucluse et l'Union des commerçants, artisans et viticulteurs de Camaret. Dans cette perspective, il est proposé d'organiser un repas avec participation financière des participants. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances fêtes et animations, considérant qu'il est nécessaire de définir les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité dans le cadre de cette manifestation, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les tarifs de participation au repas organisés par la municipalité à l'occasion de la soirée dansante Camaret fête le vin comme suit. 18,50 € par adulte, 6 € par enfant de moins de 14 ans. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie fêtes et animations et encaissées à l'article budgétaire 7062.
Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 5, marché de Noël 2014, tarif des boissons pour la buvette temporaire. Rapporteur Elvire Théoki.
La commune de Camaret-sur-Aigle organise un marché de Noël les 29 et 30 novembre 2014. A l'occasion de cette manifestation, il est envisagé la mise en place d'une buvette au profit de la commune. Les recettes seront encaissées par la régie de recettes, fêtes et animations. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 avril 2003 portant création d'une régie de recettes et d'avances, fêtes et animations, considérant qu'il est nécessaire de définir les tarifs des boissons dans le cadre de cette manifestation, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les tarifs de participation comme suit. Café 0,50 €, chocolat 0,50 €, thé 0,50 €, jus de fruits, canette ou petite bouteille 1,50 €, soda canette 1,50 €, bière canette 2 €, verre de vin blanc, rosé rouge 1 €, verre de kir 1,50 €. Il est précisé que ces recettes seront perçues par la régie fêtes et animations et encaissées à l'article budgétaire 7062.
Y a-t-il des questions ? Madame Chomel.
Est-ce que la tenue de cette buvette a été proposée aux associations camaritoises ?
Écoutez, nous avons effectivement agi en concertation avec elles, et notamment l'amicale laïque et le comité de jumelage qui vont de leur côté proposer aussi quelque chose avec la buvette. Donc voilà, on s'est un petit peu partagé les rôles. Oui. Monsieur Point. Donc la commune. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a demandé conseil, puisque c'est aussi son rôle, au trésorier payeur de la commune, qui nous a indiqué la marche à suivre. Et voilà, en plus, vous l'avez constaté, il n'y a pas d'alcool fort, nous n'avons pas besoin de licence 4. C'est tout à fait, c'est une démarche qui est tout à fait possible de la part de la commune. Et ça permet un petit peu d'alléger le coût de cette manifestation qui est très chère, bien que nécessaire. Autre question ? Oui. Il y a les deux. Je rappelle à l'opposition que si elle veut être bien entendue dans l'enregistrement, il est conseillé d'utiliser le micro. Monsieur Mengui, ou monsieur Point, s'il veut continuer, puisqu'il a le micro. Il marche ?
Oui, je posais la question là, pour savoir si vous alliez mettre des bouteilles pour les jus de fruits, les sodas et les bières. Parce que je crois que c'est interdit les bouteilles.
Canettes, une petite bouteille, on va vérifier la chose, mais effectivement, il y aura vraisemblablement des canettes.
Quand on passe par des boîtes, hein. Des boîtes, oui.
Donc, vous avez bien précisé que vous aviez consulté le comité de jumelage.
Et l'amical laïque, oui.
Et l'amical laïque.
Madame Souvera, elle va faire la suite. J'ai consulté Madame Souvera qui m'a dit qu'elle faisait un baril avec des huîtres et le vin. Voilà. Et l'amical laïque va faire tout ce qui est un peu sucrerie, crêpes, elle m'a dit gaufres, gâteaux. Voilà. Comme tout les autres. Les autres associations n'ont pas vu. Alors on a demandé après à Éclat de Lyre, etc. On avait une réponse.
Autre question ?
Simplement, pour savoir, ce sont les élus qui vont tenir la buvette, pas du personnel municipal ?
Les élus, merci. Plus de questions ? Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, modification des modalités de location des salles du complexe René Roussière. Rapporteur Sylvette Gilles.
Dans un souci de meilleure gestion relative à la mise à disposition des salles du complexe René Roussière et suite aux travaux réalisés en 2014, isolation, chauffage, climatisation, sécurité, il a été décidé de modifier la convention de mise à disposition ainsi que le règlement de location des salles du complexe René Roussière établi par délibération numéro 2012 sur délib sur 25 du 29 mars 2012. Ces documents ont pour objectif de matérialiser les conditions et les modalités d'utilisation des salles par les particuliers, les associations camarétoises, les élus et employés municipaux, ainsi que par les partenaires et services publics du NEPA, et de déterminer les conditions et modalités d'application des nouveaux tarifs concernant la location, le nettoyage et le montant de la caution d'autre part. Compte tenu du nombre de demandes de particuliers domiciliés hors de la commune et dans l'intérêt de la commune de Camaret-sur-Aigle, il est nécessaire d'apporter des modifications aux modalités de location des salles de l'espace René Roussière. Considérant l'avis de la commission des finances réunie le 20 octobre 2014, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du règlement de location et de la convention de mise à disposition des salles de l'espace René Roussière par l'ajout des tarifs de location pour les particuliers domiciliés hors de la commune. Pour la cafétéria, 180 euros, 4 salles plus l'office, 450 euros, 4 salles plus cafétéria plus l'office, 600 euros. Et la suppression de la mention, les week-ends, il n'y aura pas de double location, 4 salles et cafétéria, à 2 personnes différentes, dans le paragraphe 2, possibilité de location. De dire que les autres dispositions de la convention et de la délibération numéro 2012 sur délib sur 25 du 29 mars 2012 restent inchangées. Les recettes liées à ces nouveaux tarifs seront encaissées par la régie location de salles et imputées à l'article budgétaire 752.
Y a-t-il des questions ? Oui, Monsieur Mengui.
Moi, à la lecture de la délibération, à la lecture de la convention, je me suis posé la question de savoir comment vous alliez arbitrer entre un habitant de la commune et une personne ou une famille hors de la commune qui souhaiterait avoir la même salle au même moment. Est-ce que la priorité sera donnée aux familles camarétoises ? Parce que ça risque d'arriver.
La priorité sera donnée aux familles camarétoises, bien entendu, oui.
Mais ce serait bien de l'avoir marqué pour que tout le monde puisse savoir.
Des consignes seront données en ce sens et nous faisons confiance au service pour justement attribuer les salles avec beaucoup de parcimonie aux gens de l'extérieur de la commune.
D'accord. Mais moi, je pense que ce serait bien de pouvoir le marquer de façon explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interprétation possible.
Et il y a déjà quelque chose qui différencie les deux, c'est le tarif. Hein, donc, c'est
oui, bien sûr.
Voilà. Le tarif est quand même pas rédhibitoire, mais enfin, il est très cher pour un extérieur à la commune.
Excusez-moi, par rapport au tarif, il y a quand même une différence importante, je dirais, entre la cafétéria qui passe de 80 à 180 euros. Proportionnellement, les 4 salles plus l'office passent de 350 à 450 euros. Et 4 salles plus la cafétéria et l'office, 500, ça passe à 600 euros. Proportionnellement, par rapport à la cafétéria, on ne peut pas dire qu'il y ait une augmentation importante des tarifs par rapport aux extérieurs, si je puis me permettre.
Écoutez, ça c'est votre interprétation, c'est quand même...
J'interprète ça, c'est une remarque. Monsieur Lebert, j'avais
Je vous ai laissé terminer, je vous dis que je trouve que c'est quand même nettement plus cher pour les gens de l'extérieur. Madame Chaumet.
Le problème, c'est dans les délais. Comment vous accorderez priorité aux Camaretois si les salles se réservent un an à l'avance par quelqu'un d'extérieur et si le Camaretois arrive 10 mois... réservé, la salle sera déjà
testée. Encore une fois, dans les services, il y a des personnes qui ont une longue habitude, une longue pratique de ce genre de location. Et la convention ne sera pas mise à la disposition des gens de l'extérieur un an à l'avance. Et encore une fois, consigne va être donnée de privilégier les Camaretois, donc nous n'allons pas accorder un an à l'avance la salle roussière aux gens de l'extérieur.
Et quelle est la place donnée pour les associations camaretoises dans l'utilisation de la salle?
Il n'y a pas de changement en ce qui concerne les associations camaretoises.
Et est-ce que la salle est ouverte aussi aux associations extérieures?
Non. Là, ce sont les particuliers, simplement. D'ailleurs, nous avons très très peu de demandes de la part d'associations de l'extérieur de Camaret. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, de toute façon, après, oui, je parle assez fort. De toute façon, après, aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'était les premiers qui retenaient qui avaient la salle. Le premier qui prend, il retient. Quand il a retenu, on peut lui dire après non, mais c'est, malheureusement, c'est un camaretois. C'est là où c'est ce qui serait joué. Oui, il s'était retenu.
Aujourd'hui, c'était ouvert pour camaretois. On va pénaliser les camaretois.
Non, je ne pense pas que nous allons pénaliser les camaretois. En revanche, ce que nous trouvions un petit peu dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de moments où la salle était libre. Elle n'était pas demandée par des camaretois. Et parallèlement, nous avons quand même pas mal de demandes de la part de particuliers de l'extérieur. Donc, quelque part, la commune perdait de l'argent. Ce qui est un petit peu dommage. Nous allons essayer de remédier à ce fait sans que ce soit au préjudice des gens de Camaret.
Il y a eu une certaine préservation du bâtiment.
Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 7, opération participation citoyenne, rapporteur Monsieur Lionel Muret.
Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité, la note 10 J 117-146J en date du 22 juin 2011 du ministère de l'Intérieur, prévoit la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de participation citoyenne, ancien dispositif voisin vigilant, au sein de la commune. Il apparaît nécessaire à la municipalité de mettre en œuvre ce dispositif sur l'ensemble du territoire de la commune de Camaret-sur-Aigle. Il s'agit de l'engagement d'un certain nombre d'habitants d'une même aire géographique, rue, quartier, dans une démarche collective visant à améliorer le niveau de sécurité d'un secteur défini. en prenant la forme d'un réseau de solidarité de proximité constitué d'une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d'habitants d'une même rue, d'un même quartier. Le dispositif s'appuie sur des voisins référents qui alertent, s'ils l'estiment nécessaire, la gendarmerie et la police municipale de fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ce concept n'est autre qu'une action complémentaire dans la lutte contre le phénomène de délinquance et n'a pas pour vocation de se substituer à l'action de la gendarmerie et de la police municipale. Par conséquent, cela exclut bien évidemment l'organisation de toute patrouille ou intervention. Considérant la nécessité de signer une convention avec l'État pour mettre en place ce dispositif à Camaret-sur-Aigle, il demandait au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention entre la commune de Camaret-sur-Aigle et l'État pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Bien, vous avez la convention. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Mengui.
Sur les camarétois qui vont être agréés, dans la convention, je trouve que c'est dommage, il n'est pas dit que l'avis de la gendarmerie soit donné sur le choix des personnes. C'est donc le maire qui présente une liste de camarétois qui seront entre guillemets agréés. Moi, je pense que sur les questions de sécurité, il serait bon que la gendarmerie puisse donner au moins un avis. C'est une remarque. Et enfin, dans la dernière partie de l'article 8 de la convention, il est dit qu'il y aura donc la convention est signée pour 2 ans et qu'il y aura un rapport de conditions de mise en œuvre. Et nous aurions souhaité que ce rapport puisse être également présenté au conseil municipal, ce qui ne semble pas être le cas. Voilà les deux observations que j'avais à faire sur cette convention.
Bon, Monsieur Mengui, pour votre première réponse, il faut savoir qu'avant que nous puissions, quand nous allons contacter ces gens, font l'objet d'une réunion ici en mairie avec l'officier de gendarmerie qui va contenir tout ce dispositif. Donc effectivement, les gens vont être choisis en coordination avec monsieur le maire, le conseil municipal, les élus de la sécurité et l'officier de gendarmerie. Donc c'est prévu.
J'ajoute que ce n'est pas explicitement indiqué dans la convention, mais cette convention, c'est la gendarmerie qui nous l'a fournie. Hein. Et c'est la même qui s'applique dans d'autres communes qui utilisent ce procédé, Jonquière et Huchot, par exemple. Donc c'est implicite, si vous voulez. Toutes les personnes qui seront volontaires pour participer à l'opération dans les quartiers, de toute façon, seront soumises à l'avis de la gendarmerie au préalable. Et en ce qui concerne votre souhait de parler de ce bilan en conseil municipal, alors là, j'y souscris immédiatement, ça, il n'y a pas de problème. Ça ne concerne pas directement les partenaires qui sont signataires de la convention, mais entre nous, bien entendu, ça, je peux vous dire que je m'engage à ce qu'il soit rendu compte de ce bilan en conseil municipal.
Oui, je voudrais simplement, toujours en commission de sécurité, vous avez bien précisé qu'il y avait une enquête particulière faite par la gendarmerie sur chacune des personnes.
Absolument.
Hein, c'est ce qui a été précisé, je crois que c'est pour répondre. Donc ça, c'est ce qui a été dit. Une enquête personnelle sur les gens, hein, notamment le casier judiciaire et autres, et les antécédents qui ont pu exister.
Absolument.
Voilà, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Qui est pour ? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Dossier numéro 8. Dématérialisation des actes avenant à la convention avec la préfecture de Vaucluse pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes budgétaires. Rapporteur Sylvette Gilles.
Vu le Code général des collectivités territoriales. Vu la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, et notamment son chapitre 8, son titre 8, chapitre 2, portant réforme du contrôle de l'égalité, vu le décret 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités locales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges de dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs au journal officiel du 3 novembre 2005, vu la délibération numéro 2011 sur Délib sur 123 du 15 décembre 2011, approuvant la convention avec la préfecture de Vaucluse pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes administratifs, vu l'intérêt pour la commune à se doter d'un dispositif de télétransmission des actes budgétaires non prévus dans la convention initiale, considérant qu'il y a lieu de passer un avenant à la convention avec l'État à cet effet, il est demandé au conseil municipal de donner son accord pour la télétransmission des actes budgétaires par le recours à un dispositif propre de télétransmission, d'autoriser M. le maire à signer l'avenant avec la préfecture de Vaucluse à cet effet.
Bon, là, c'est une délibération purement technique. Est-ce qu'il y a des questions néanmoins ? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 9. Modification des statuts de la communauté de communes Aigouvèze en Provence. Conformément aux articles L5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement les articles L51-17, adjonction ou retrait de compétences, considérant que chaque modification apportée au statut de la communauté de communes Aigouvèze en Provence doit faire l'objet d'une délibération du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI, considérant que dans la perspective du transfert de nouvelles compétences et la mise en place du schéma de mutualisation, de nouvelles modifications doivent être apportées au statut de la communauté de communes qui vise dans un premier temps à, tout d'abord, créer un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols, étant précisé qu'une délibération spécifique sera prise ultérieurement pour en déterminer les modalités, le coût et la répartition de la charge financière, et que des conventions bilatérales seront signées avec les communes membres pour préciser le niveau d'intervention du service en fonction des spécificités propres à chaque commune. Et ensuite, étendre la compétence facultative balayage mécanisé à l'ensemble des opérations de propreté urbaine, notamment le nettoyage manuel des voies communales et de leurs accessoires. Vu la délibération numéro 2014-103 du 25 septembre 2014 du Conseil de communauté de la communauté de communes Aigouvèze en Provence relative à l'approbation des modifications apportées au statut de la communauté, considérant la nécessité pour les communes membres d'émettre un avis pour toute modification relative au statut, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées au statut de la communauté de communes qui visent principalement à donc créer un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols et étendre la compétence facultative balayage mécanisé à l'ensemble des opérations de propreté urbaine, notamment le nettoyage manuel des voies communales et de leurs accessoires. Y a-t-il des questions ?
Oui.
Monsieur, honneur aux dames, Madame Thibault.
Merci. Vous parlez... Je ne sais pas si le micro fonctionne, mais ce n'est pas grave, je parle assez fort. Vous parlez de mutualisation et non de transfert de compétences concernant l'instruction des droits des...
Voilà, tout à fait.
D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une mutualisation, donc il n'y a pas de transfert de personnel, d'agents par rapport à cette mutualisation.
C'est cela.
C'est-à-dire que les communes conservent donc leurs agents sur Camaret, ce qui veut dire que la communauté de communes va donc ouvrir un poste d'agent pour occuper ce poste-là, et il y aura une répartition pour chaque commune.
C'est ça.
Alors,
Voilà, c'est la question que je voulais poser. Ce qui est dommage, pourquoi n'y a-t-il pas eu un transfert de compétences? Parce qu'à terme, fin 2015-2016, ça va être une compétence obligatoire. Pourquoi ne pas le faire tout de suite? Ce qui permettrait d'avoir ce transfert de personnel et d'éviter d'embaucher au sein de la communauté de communes un agent spécialisé au droit du sol, dans le droit du sol. Voilà, bon, c'est ma question, je dirais, pour un souci, je dirais, financier, budgétaire, pour les communes. Voilà ce que je voulais vous poser, et voilà, ça m'intrigue un petit peu, voilà, d'autant plus qu'on sait que les services de l'État vont transférer cette compétence d'ici fin 2015.
En réalité, en ce qui concerne les autorisations du droit des sols, ce qui se passe, c'est que l'État abandonne cette instruction et donc reporte la charge de ce service aux communes et aux communautés de communes. Donc, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Mais ce que je vous indiquerai, c'est qu'au niveau justement de l'intérêt financier de la commune de Camaret, on sera plutôt gagnant par le biais d'une mutualisation, puisque cette mutualisation, cette mise à disposition d'un agent de la commune de Camaret au profit de la communauté de communes n'aura pas de conséquences sur notre attribution de compensation, contrairement à un transfert. Un transfert d'un membre de notre personnel à la CCAOP aurait entraîné parallèlement une baisse de notre attribution de compensation.
Non, ça, je suis entièrement d'accord, mais en termes, je dirais, financiers pour les contribuables, on crée un double service, à la fois dans la communauté de communes et une fois au niveau de la collectivité. Je rappelle, enfin, le principe des intercommunalités, c'est de mutualiser, transférer les compétences afin de réaliser des économies d'échelle. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la logique qui s'inscrit dans le cadre des intercommunalités. Moi, c'est une remarque. L'explication que vous donnez, bien sûr, je la comprends. Je vois pas l'intérêt. Enfin, d'autant plus que nous allons arriver à pas loin de 20 000, d'ici quelques temps, à 20 000 habitants au sein d'une autre intercommunalité, et ça sera un transfert obligatoire d'office. Voilà. Moi, simplement, je parle d'anticipation par rapport aux compétences. C'est tout. Et une économie d'échelle pour notre collectivité et l'ensemble de la communauté de communes. Voilà, moi, c'est tout, c'est une remarque.
Je dirais simplement que ce n'est pas un double service, c'est un service commun. C'est-à-dire que la personne de Camaret ou d'une autre commune, et ou d'ailleurs, qui va être attachée à ce service qui sera organisé par la CCAOP, va travailler pour l'ensemble des communes membres, et notamment pour celles qui n'ont absolument pas les moyens, justement, de recruter quelqu'un pour instruire les autorisations du droit du sol. Donc c'est en cela que la communauté de communes joue son rôle, c'est qu'elle va pouvoir mettre à la disposition des communes, entre guillemets, plus pauvres, un agent qui va instruire les autorisations de la dite commune sans que celle-ci ait à recruter du personnel supplémentaire.
Donc l'Interco n'embauchera pas de cadre.
Alors l'Interco va être contrainte d'embaucher un cadre à ce poste, dans la mesure où ce service qui était rendu par l'État, par les services de l'État.
Ce qu'on avait compris, donc ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y aura quelqu'un d'embauché par l'Interco, plus l'agent pour la commune.
Voilà. Oui, mais une seule personne à la communauté de communes ne pourrait pas régler tout le problème de toutes les communes. Donc il est normal que quelqu'un qui vienne à la communauté de communes, qui va être secondé avec des personnes, notamment de la commune de Camaret et d'autres communes, qui viendront en renfort. C'est pas possible.
Oui, mais alors je veux dire, dans le cas d'un transfert, Piolenc dispose d'un agent d'instruction au droit des sols, Camaret aussi, donc il y avait la possibilité de transférer. C'est tout. Oui, ok, non, c'est entendable.
Ça aurait été au détriment des finances respectives de Camaret et de Piolenc. Si. Puisqu'on aurait été obligé de baisser l'attribution de compensation donnée à Camaret et à Piolenc dans le cadre d'un transfert. Ça, c'est malheureusement incontournable. Et encore une fois, c'est un service avec un cadre, certes, mais qui va travailler au bénéfice de toutes les communes membres de la communauté. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité, je vous en remercie. Alors, dossier numéro 10, modification du tableau des effectifs théoriques, services techniques et enfance-jeunesse, rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu la délibération du 22 mai 2014 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret, vu le budget de la commune, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents titulaires à temps complet pour les services techniques et que ces agents exerceront à titre principal les fonctions de technicien principal de deuxième classe et d'agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2015, pour le service enfance-jeunesse et que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation de première classe à compter du 1er janvier 2015, vu l'avis de la commission du personnel réunie en date du 2 octobre 2014, vu l'avis de la commission administrative paritaire réunie le 10 juillet 2014 pour le poste d'agent de maîtrise et sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire devant se réunir le 20 novembre 2014 pour les autres postes, oui, les propositions de M. le maire, il est demandé au conseil municipal d'accepter la création des postes budgétaires suivants. Un poste de technicien principal de deuxième classe à temps complet pour les services techniques. Un poste d'agent de maîtrise à temps complet pour le service technique. Un poste d'adjoint d'animation de première classe à temps complet pour le service enfance-jeunesse. D'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Y a-t-il des questions? Pas de questions? Alors, je mets aux voix.
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, service administratif. Rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, considérant que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'adjoint administratif de deuxième classe au sein du service des ressources humaines. Oui, la proposition de M. le maire de créer ce poste d'adjoint administratif de deuxième classe. Il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer du poste suivant pour un accroissement temporaire d'activité, un poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet pour le service administratif ressources humaines, d'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 12 du budget principal de la commune.
Y a-t-il des questions?
Donc ces questions ont été vues en commission. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors je passe au dossier numéro 13. Structure multi-accueil, modification du règlement de fonctionnement.
Par délibération du 16 septembre 2010, le Conseil municipal a approuvé le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, ce dernier ayant été modifié par délibération le 13 septembre 2012 et le 4 juillet 2013. Au vu des nouveaux critères du barème de la prestation de service unique, défini dans la circulaire CNAF numéro 2014-009 du 26 mars 2014, il devient nécessaire de compléter le règlement. La circulaire précitée stipule qu'à compter du 1er janvier 2014, les établissements d'accueil du jeune enfant sont financés selon le niveau de service rendu. Les critères de revalorisation du prix plafond sont la fourniture des repas, elle comprend l'ensemble des repas, collations et goûters compris, la fourniture des couches, un faible taux de facturation, heure facturée, heure réalisée. Ainsi, pour améliorer le service aux usagers de la structure multi-accueil, et afin de pouvoir bénéficier d'un montant de PSU y afférent, il convient de prévoir la fourniture de couches dans le règlement en complétant la liste des prestations définies dans l'article 7 en son paragraphe « Vie quotidienne, accueil de l'enfant » et d'ajouter « Des couches sont fournies par la structure, une seule marque sera mise à disposition. Toutefois, les familles gardent la possibilité d'apporter les couches de la marque de leur choix. » Vu la délibération numéro 2010-108 du 16 septembre 2010 portant règlement intérieur de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération numéro 2012-67 du 13 septembre 2012 portant modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu la délibération numéro 2013-055 du 4 juillet 2013 portant modification du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil, vu le projet de règlement annexé à la présente délibération, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les nouveaux termes du règlement de fonctionnement, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc vous avez le règlement intérieur tel que nous proposons de le modifier. Donc, en un mot, hein, si nous adoptons cette délibération avant la fin de l'année, nous allons pouvoir percevoir à peu près 6 000 euros supplémentaires de la part de la CAF.
C'est une obligation, monsieur le maire?
C'est pas une obligation, mais...
Ce n'est pas devenu, parce que c'était en pourparler de devenir obligatoire.
Alors, à ce jour, ce n'est pas encore une obligation.
Il y a un peu de choses prévues.
Ben disons, c'est vivement conseillé, surtout qu'il y a cette incitation financière dont je vous ai parlé.
Et la pension augmente bien.
Là, je vous dis, ça va augmenter rien que pour l'année 2014.
Les directeurs n'étaient pas trop favorables par rapport à la logistique. Ça a
impliqué
de stocker les couches, parce que là, les enfants viennent avec les couches pour la journée, ils n'avaient pas stocké les couches au moins, voire plus. Donc, ils essayaient de retenir l'obligation.
Oui, non, mais bon, voilà, donc on les a vus, on va s'organiser, on va fonctionner un petit peu à flux tendu, ce qui fait qu'on va pouvoir quand même garder des capacités de stockage assez importantes. D'autres questions? Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, enfin, dernier point. Vous avez reçu l'état des déclarations d'intention d'aliénés ainsi que l'état des décisions du maire pour le troisième trimestre 2014. Y a-t-il des questions à ce propos? S'il n'y a pas de questions, peut-être une sur ce propos, peut-être une question diverse. Dans ce cas, il va me rester à vous annoncer la date du prochain conseil municipal, qui sera donc le 25 novembre. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie.